Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 13, Le départ. Pendant les 3 jours qui précédèrent le départ d'Aelenor, elle ne quitta pas Keller. Elle accomplit ses préparatifs machinalement, mais son âme troublée ne trouvait de répit qu'en la présence de son amant. Elle aurait voulu lui expliquer, s'expliquer à elle-même, pourquoi elle devait partir, mais toutes les raisons semblaient vaines devant la réelle douleur de leur séparation. Comment pouvait-elle souffrir à ce point de l'idée de l'absence de quelqu'un? Cela lui aurait semblé inconcevable quelques semaines plus tôt. Pourtant, elle savait au fond d'elle que ce voyage lui était nécessaire, que sa quête n'était pas terminée, qu'elle n'était pas encore elle-même. Des réponses lui manquaient, des questions aussi. Le bouleversement absolu de sa vie n'avait pas encore de sens défini. Elle savait ce qu'elle n'était plus, ce qu'elle renonçait à être, mieux qu'elle ne savait ce qu'elle voulait devenir. Et cette incertitude minait tout le reste et finirait tôt ou tard par abîmer même leur amour. Il fallait s'occuper de soi avant de se donner à l'autre. Il fallait lui offrir une personnalité pure et totale, ayant surmonté ses propres contradictions et non un vague élan sans direction. Une eau brutale, songea-t-elle. C'est pourquoi elle avait saisi l'occasion de voyager seule vers ce monastère presque mythique. Les journées de marche solitaire, la cesse de la route, la rencontre avec cette origine lointaine d'une haute ville qui n'avait pas encore sombré dans le cynisme, lui avaient paru infiniment propices au travail intérieur dont elle ressentait le besoin. Travail était le seul mot qu'elle trouva. Pour la première fois peut-être, elle envisageait l'esprit non comme un outil, mais comme un mode d'existence. Ce travail était d'ordre spirituel, en ce sens que la pensée seule y officierait. Travail d'exploration et d'exhumation, de tri et de mue, d'analyse et de compréhension, d'unification et de cohérence. Il fallait qu'elle passe au tamis chacun de ses sentiments, chacune de ses idées, chacun de ses réflexes, et qu'elle jette impitoyablement tout ce qui ne venait pas d'elle, mais de son conditionnement social. Il fallait qu'elle s'épure elle-même de toutes ses parures impersonnelles, qu'elle découvre sa propre nudité. Il ne resterait sûrement pas grand-chose, mais ce qui resterait serait un matériau pur dans lequel elle se reforgerait, incassable et presque magique. Son amour pour Keller, elle savait au plus profond d'elle-même qu'il ferait partie de la poignée de choses qui lui resterait, que s'il ne devait lui rester qu'un seul sentiment, ce serait celui-là. Ils étaient couchés tous les deux, les yeux grands ouverts, dans les lueurs annonciatrices de l'aube qui les séparerait. Keller s'était résigné à ce départ qui faisait partie d'elle et qu'il devait accepter. Il ne lui demanda pas ses raisons, ni quand elle rentrerait, car il savait qu'elle l'ignorait. « Voilà, » dit-il tristement, mais sans l'ombre d'un reproche. « Il va falloir que je me réhabitue à vivre sans toi. »« Pas trop, » dit-elle en souriant. Une ombre de jalousie fit intrusion dans son esprit et elle se prit à imaginer qu'il pourrait l'oublier. « Tu es le premier et le dernier, » dit-elle gravement, « le seul à qui ma vie sera liée. »« Je te crois, » dit-il après un instant. « Crois-tu au destin ?» demanda-t-elle. « Il me semble parfois que le destin est la seule chose capable d'expliquer cette certitude que j'éprouve à ton égard, cette transparence. Il ne peut en être autrement. » Keller lui sourit. « Non, je ne crois pas au destin, mais je crois en la multitude de possibles que notre rencontre a ouverts et en notre capacité à les rendre réels. » Elle hocha la tête. « Qu'allons-nous faire ensemble ? » murmura-t-elle. « Je l'ignore encore, » dit-il rêveur, « mais ce sera beau. » Quelques heures plus tard, les paquetages avaient été faits, les recommandations données, l'itinéraire étudié et les amants arrachés l'un à l'autre. C'était une journée ensoleillée de la saison des semis, parfois horriblement pluvieuse, et Aelenor, entraînant derrière elle sa mule chargée d'équipements et de vivres, se sentait mystérieusement légère. Elle se retourna régulièrement tout au long de son cheminement à travers la plaine et les carrières pour contempler la cité qui rapetissait derrière elle. La cité d'Albâtre avait été autour d'elle close comme un univers, et voilà qu'elle la regardait de loin, point d'activité humaine, perdue dans une nature profondément indifférente, cité parmi les cités qui constellaient la terre, comme les myriades d'étoiles au fond du ciel. Insignifiante était le mot qui venait à l'esprit d'Aelenor, un mot qui la rendait libre et légère, comme une nuée. La cité d'Albâtre était insignifiante, un minuscule amas d'oppression et de production, de haines et de rêves. Comme si quelque chose s'était dénoué dans son esprit, elle se rendit compte qu'elle lirait probablement son destin à celui de cette cité insignifiante, non parce qu'elle y était prisonnière, mais parce qu'elle aurait choisi d'y revenir après l'avoir fait disparaître de sa vue, après avoir embrassé du regard le vaste monde. Il lui fallut quelques heures à peine pour atteindre l'orée de la forêt. La mule, apaisée par l'utilisation machinale de l'esprit, se révélait résistante et docile. Quant à Eleanor, elle avait l'impression de pouvoir marcher indéfiniment. Elle s'astreignit au repos, à l'ombre du sous-bois, jouissant de l'une des dernières vues sur Albâtre qui disparaîtrait bientôt derrière les arbres. D'après les renseignements de Kettel, la cité monastère se trouvait au-delà de la basse montagne, au pied de laquelle s'étendait la forêt, ou peut-être sur l'un de ses cols. Il s'agissait de renseignements de troisième main, recueillis auprès de voyageurs et de marchands, dont le témoignage était parfois peu crédible, mais Eleanor se fiait à son intuition pour retrouver le lieu où les traces devant y conduire. Les spiritualistes devaient emprunter des routes, faire paître du bétail, cultiver quelques arpents de terre. Tout cela ne pouvait passer inaperçu. Au bout d'environ une demi-heure, alors que le soleil entamait sa descente dans le ciel, elle reprit sa route et passa le reste de sa journée à marcher et à penser à Keller, dans la douleur exquise de le savoir présent quelque part en ce monde, mais pas à côté d'elle. Elle s'installa pour la nuit dans une petite clairière, après avoir flatté et désarnaché la mule. Elle mangea rapidement quelques fruits et du pain, en regardant tomber le crépuscule. Elle s'étonna de la noirceur de la nuit, en dehors de la ville, et songea que c'était la première fois qu'elle passait la nuit à la Belle Étoile. Les nuits de la haute ville avaient toujours eu les parfums clairs-obscurs du Lix et du repos. Celle de la ville basse la ramenait à une autre lumière, celle de la présence de Keller, à la chaleur et à l'intimité silencieuse qui faisait suite à l'agitation de la journée. Mais ici, dans cette forêt solitaire, la nuit succédait au jour sans aucune autre signification que celle d'un changement de lumière. Rien d'humain ne revêtait l'obscurité, qui paraissait plus froide et plus hostile. Elle fit un feu, sans difficulté, et s'emmitoufla dans sa chape avant de se perdre dans la contemplation hypnotisante des flammes. La somnolence la gagnait lorsqu'elle perçut, plutôt qu'un bruit, une présence. Elle se concentra et attendit, sa pierre frontale émettant une lueur prudente. Une autre pierre frontale, triangulaire, brillait dans le noir à quelques pas de son campement, une lumière violette, malsaine et funèbre. Eleanor raffermit son esprit. Qui que vous soyez, concitoyens, je vous invite à vous joindre à moi en pleine lumière. Un gloussement moqueur accueillit ses paroles, tandis qu'un homme qu'elle n'avait jamais vu révélait sa silhouette en approchant de la flamme. Tu n'es plus concitoyenne de personne, observa l'homme froidement. Question de point de vue comme toute autre chose, dit calmement Eleanor pour gagner du temps. Ton sang-froid t'honore, reprit l'homme en la dévisageant. Sa pierre frontale se mit à luire désagréablement, et Eleanor sentit une brutale intrusion dans son esprit, comme une sonde chirurgicale pénétrant en elle, sans douceur, dans un but très précis. Sa propre pierre frontale se mit à briller plus fort, tandis qu'elle résistait, non sans difficulté, à cet assaut imprévu. « Il n'est guère poli de sonder l'esprit des gens sans même s'être présenté, remarqua-t-elle. « Laisse-toi faire, ordonna-t-il d'une voix courroucée et impérieuse. » Elle eut un bref instant de dépersonnalisation. L'homme lui parut immense et menaçant, et elle ressentit de manière aiguë leur solitude et sa vulnérabilité, comme une enfant soudainement contrainte à obéir. Pendant cette brève déstabilisation, le regard de l'homme s'engouffra en elle, avec une rapidité et une force stupéfiantes. Elle le sentit fouiller son esprit, le dénuder, le violer, et eut un sursaut silencieux. Sa pierre frontale irradia une très vive lumière, presque aveuglante, et elle sentit la présence insidieuse forcée à se retirer. Une présence à la fois supérieure et inhumaine, infiniment ennemie. « Les présentations sont faites, » dit l'homme. Eleanor remarqua sa toge noire, son visage livide, couturé de cicatrices. « Maître Sornard, » murmura-t-elle, « vous êtes à la hauteur de votre mauvaise réputation. » Je n'ai pas de temps à perdre en joute verbale, dit-il d'un ton à la fois sec et calme. Je suis venu pour me faire un jugement et j'y suis parvenu. Tu es un levier puissant et le chancelier est un imbécile de ne pas avoir négocié ton maintien sous surveillance. Tu aurais pu leur être utile, mais il lui aurait fallu en rabattre pour l'admettre. Les esprits comme le tien sont à utiliser ou à détruire. » À Eleanor se sentait plus exaspérée qu'elle ne le laissait paraître. La prudence lui recommandait, cependant, de se taire. « Je te détruirai probablement un jour, quand tes desseins s'opposeront aux miens. Pour le moment, tu ne représentes une menace que pour ces démocrates de pacotille et leur cité décadente, et cela m'arrange. » La curiosité fut la plus forte, et à Eleanor brisa le silence. « Ne servez-vous pas la haute ville ?» Sornar éclata de rire. « La haute ville est mon esclave !» Il y eut un silence oppressant, pendant lequel à Eleanor retint son souffle et sa pensée. Quelque chose la fascinait dans cet homme, et elle se rendit compte qu'elle attendait, presque avec ferveur, qu'il reprît la parole. « Va dire aux spiritualistes que j'ai rassemblé mes frères et que le jour de notre confrontation approche. Tu trouveras la cité monastère sur le versant sud-ouest, derrière le chaos des rochers vertigineux. » L'esprit d'Aélénor était étrangement scindé, à la fois bouillonnant de questions et réduit au silence. Lorsqu'elle revint pleinement à elle, la sombre présence de Sornar s'était dissipée dans la nuit.